10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec vous en direct jusqu'à 16h comme tous les jours pour partager vos expériences de vie. Je suis bien évidemment en compagnie de ma camarade Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour,
bonjour
à tous.
Ici, vous le savez, c'est votre heure, nous partageons vos histoires, votre vécu, vos témoignages nous intéressent. Les actes antisémites ont augmenté de 69% en 2018, un chiffre très préoccupant qui interroge. Comment expliquer une telle hausse? Le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé que le gouvernement ne serait pas indifférent à ces chiffres en luttant à travers le plan national de lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Je ne citerai pas tout, mais nous avons tous en mémoire la tuerie de l'école juive à Toulouse, l'attentat de l'hypercachère, des attaques très violentes, mais il y a aussi ce que l'on appelle l'antisémitisme ordinaire, les petites réflexions, les dérapages au quotidien. Que vivent les juifs de France au quotidien? L'antisémitisme est-il banalisé? Antisémitisme, pourquoi est-il en hausse en France? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le 39 21 50 centimes la minute. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et sur Twitter si vous le souhaitez, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant avec Samuel. Bonjour Samuel, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge
bonjour.
Avez-vous?
Alors j'ai 18 ans.
18 ans. Alors Samuel, vous avez subi une agression qui vous a visé parce que vous êtes juif. Que s'est-il passé exactement?
Alors, ce jour-là, je descendais du tramway à Bordeaux et deux personnes sont arrivées vers moi, m'ont insulté et m'ont arraché du coup ma chaîne avec mon étoile de David.
D'accord. Et quel type d'insultes ils ont proféré?
Alors, c'était des mots en arabe et quelques en français. Et ils me disaient que c'était un sale juif, de Yéhoud, de sale, de voleur.
C'est la première fois que ça vous arrivait?
C'est la seule fois que ça m'arrivait, oui.
Sur le moment, vous avez compris ce qui se passait?
Alors non, je ne comprenais pas. J'étais deux et ils m'ont arraché la chaîne après assez brusquement. Et sur le moment, je n'ai pas compris. C'est sur le recul que j'ai compris ce qui se passait et ce qu'ils disaient.
Est-ce que les gens autour de vous, qui ont été témoins de cette agression, ont réagi ou personne n'a réagi?
Malheureusement, non. Personne n'a vu exactement ce qui se passait parce qu'ils étaient deux et ils faisaient comme s'ils me parlaient. Et en fait, je me retrouvais sans pouvoir bouger et sans pouvoir réagir. Et personne ouais. n'avait remarqué qu'en fait, à ce moment-là, je me faisais agresser.
Mmh. Et vous, comment avez-vous réagi à cette agression?
Alors, je n'ai pas réagi sur le moment. J'étais un peu choqué de ce qui se passait, je ne comprenais pas. Et comme je l'ai dit, c'est avec du recul que j'ai pu comprendre ce qui se passait.
Ouais.
Et c'était important pour moi de réagir après. Et quand j'ai eu le temps de réagir, les deux étaient partis. J'ai assuré avec ma chaîne en or qui est venue de ma grand-mère.
Ces agresseurs, avec quel âge? Ils étaient de la même génération que vous?
Oui, à peu près, malheureusement.
D'accord. Cette agression, donc, carrément antisémite, hein, comment l'avez-vous vécue? Est-ce qu'elle vous a interrogé?
Alors, bien sûr, elle m'a interrogé, mais j'ai toujours essayé de ne pas faire de généralité. J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir remettre une chaîne qui me représente au-delà de mon identité française et au-delà du fait que je sois fier d'être français et juif. Cependant, oui. J'essaie de ne pas faire de généralité et j'ai d'ailleurs combattu ces généralités qui pourraient être faites avec un projet de fait racisme, Salam, Shalom, Salut, qui m'a permis aussi d'essayer de faire déconstruire les préjugés et que non, tout le monde n'est pas antisémite, les Arabes ne sont pas forcément antisémites, comme les Juifs ne sont pas forcément anti-arabes. Mmh. C'est important pour moi de faire comprendre qu'il ne fallait pas faire de généralité face à ces actes qui sont bien sûr odieux.
Ça a été facile ou difficile pour vous justement de rester fidèle à cette idée-là que, bien évidemment, ces deux personnages-là, ils étaient des exceptions et que, en règle générale, les gens ne sont pas ni antisémites ni racistes.
Alors oui et non, dans le sens oui, parce que après forcément j'ai eu une espèce de crainte de resubir une agression. Cependant, j'ai toujours cru et je crois encore que il ne suffit pas d'être d'un groupe ou d'être de faire partie d'une religion ou d'un pays qui vient du Moyen-Orient ou quelque chose qui pourrait attiser l'antisémitisme comme l'image qu'on pourrait avoir.
Oui.
Et je combats justement ces préjugés qu'on peut avoir sur le fait que non, toutes les personnes ne sont pas antisémites et tout le monde ne veut pas du mal, il ne veut pas du mal forcément aux Juifs.
Samuel, vous restez en ligne, on va continuer à parler de votre histoire dans quelques instants.
Europe 1.
Nous parlons de l'antisémitisme cet après-midi. Vous avez été victime de propos ou d'actes violents. On vous écoute au 3921, vous nous écrivez, nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Comment lutter contre des idées, des paroles antisémites alors que les actes contre les juifs ont augmenté en France? On vous écoute au 3921, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Samuel qui nous expliquait avoir été victime d'une agression antisémite alors qu'il était dans le bus. Agression commise par deux jeunes gens de son âge, hein, puisque Samuel a 18 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus heurté, Samuel, dans cette agression? C'est la violence des paroles prononcées? C'est le fait que personne autour de vous ne réagisse et ne vous défende?
Alors, moi, ce qui m'a le plus choqué et ce qui m'a le plus, entre guillemets, fait mal, c'est évidemment qu'il m'ait arraché ma chaîne qui venait de ma grand-mère, qui est une enfant de la Shoah. Cependant, la réaction des gens, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, ils étaient assez rusés pour faire ça discrètement et faire du mal sans que les autres le voient. Et grâce aux forces de police, bien sûr, j'ai été très vite secouru et très vite pris en charge suite à l'état de choc dans lequel j'étais. Et la police est très vite intervenue et a essayé de retrouver des suspects qui n'ont malheureusement pas été retrouvés directement, mais ensuite, par ma plainte, ont été retrouvés.
Je suppose qu'en plus, cette chaîne qui appartenait à votre grand-mère avait une valeur particulière puisque votre grand-mère, votre grand-mère avait été victime de la Shoah. C'était la première fois que vous étiez visé parce que vous étiez juif?
Alors, heureusement, pas malheureusement, oui, c'était la première fois. Cependant, physiquement, c'était la première fois, mais on peut aussi constater, malheureusement, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui sont complotistes à penser des choses que les nazis pensaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est assez affreux qu'à aujourd'hui, en 2019, nous pouvons encore constater autant de haine de certaines personnes après toute l'histoire qu'il y a pu avoir.
Vous avez 18 ans aujourd'hui. Vous évoquez les réseaux sociaux qui, bien évidemment, ont révolutionné la manière de communiquer en société et entre nous tous. Cette recrudescence, justement, elle est liée aux réseaux sociaux beaucoup et visiblement à la liberté de parole qui y est déversée.
Malheureusement, oui, je le pense. Cependant, nous pouvons constater que effectivement, beaucoup de personnes réagissent et contredisent les personnes qui peuvent étaler leur haine sur les réseaux sociaux. Et heureusement qu'aujourd'hui, les lois évoluent et que les gros réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram réagissent assez vite à ces attaques et à ces mots qui sont condamnés, bien sûr, par la loi.
On évoquait dans le début de cette émission une recrudescence de 69% hein, d'agressions antisémites depuis deux ans. Selon vous, la société française a-t-elle changé?
Alors, dans un général, ces attaques, effectivement, prouvent qu'il y a des soucis en France, des soucis d'éducation, parce qu'effectivement, on ne naît pas antisémite, on ne naît pas raciste, mais on le devient.
Oui.
Et il semble très important à aujourd'hui de faire comprendre aux gens, par l'éducation, par des formations, par des intervenants, par des associations, que non, il n'est pas normal d'étaler la haine sur les réseaux sociaux, que non, il n'est pas normal d'agresser les gens parce que juifs, parce que noirs, parce que arabes, parce que pas français, on va dire. Et il est anormal qu'aujourd'hui, nous, on se sente en danger, et pas que juifs.
Vous sentez cette société plus antisémite aujourd'hui?
Bien sûr, et cette montée du populisme dans l'Europe et dans le monde en général est assez inquiétante, bien sûr.
Est-ce que vous craignez que cela donne lieu à encore plus d'actes racistes, encore plus d'actes antisémites?
Bien sûr, il est très inquiétant et il faut absolument combattre ces faits. Il faut combattre le fait qu'il n'est pas normal d'avoir des propos racistes. Il n'est pas normal d'avoir des propos qui gênent autant et qui mettent dans une position très très délicate et la France et les personnes qui sont victimes de ces attaques.
Ce qui est bien évidemment choquant aujourd'hui, c'est d'entendre un jeune homme de 18 ans évoquer une agression antisémite. Alors comment faire justement pour lutter contre cet antisémitisme? Comment éveiller les consciences aujourd'hui, Samuel, pour combattre au mieux ces choses-là?
Alors c'est une question très large et une question que beaucoup aimeraient avoir, dont beaucoup aimeraient avoir la réponse. Cependant, moi j'ai choisi de combattre ces faits en m'engageant dans des associations et en m'engageant dans des projets qui luttent justement contre les préjugés, contre le racisme, contre l'antisémitisme et toute forme de discrimination.
On a vu beaucoup de sujets qui étaient consacrés aux juifs qui portent leur kippa le vendredi, hein, je crois, des sujets où on leur conseillait d'éviter de porter tout signe distinctif, les ramenant à leur religion. Est-ce que ça fait partie des choses à faire ou vous luttez contre ça ?
Alors, je pense pas que le moyen de résoudre les problèmes antisémites et racistes en France soit de cacher ce qu'on est. On a la liberté de religion et je ne pense pas que porter une kippa sur la tête soit quelque chose qui soit interdit par la loi et soit quelque chose qui soit dangereux pour nous. Il n'est pas normal que justement porter une kippa soit dangereux parce que nous sommes en France et qu'il est normal en France d'avoir la liberté de religion et de se faire agresser parce que nous respectons notre religion.
Mmh. Merci Samuel pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.
Très bien, merci à vous. Au revoir.
Et on a le témoignage de, on a le témoignage d'Élie.
Oui,
83 ans, au 39-21, Élie nous a appelé. Alors un extrait de son témoignage dit « Je suis fils d'un ancien déporté. L'antisémitisme est presque normal, malheureusement, car les choses que les gens ne comprennent pas, ils en ont peur. »
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Samuel qu'on a entendu. Vous avez été victime d'actes de réflexion antisémites dans la rue, sur votre lieu de travail. Un antisémitisme parfois ordinaire. Vous nous racontez votre histoire au 39-21, Olivier.
Et dans un instant, nous allons accueillir Nona Meyer. Elle est chercheuse au Centre d'études européennes de Sciences Po et a beaucoup travaillé sur les questions liées à l'antisémitisme.
Comment lutter contre les agressions qui visent les juifs ? Comment résistez-vous contre les préjugés ? Les réflexions, vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Nous sommes maintenant en ligne avec Nona Meyer, chercheuse au Centre d'études européennes de Sciences Po. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Alors nous le disions en préambule, les actes antisémites ont augmenté de 69% en 2018. C'est toujours avec effroi qu'on accueille ce type de chiffres. Comment expliquer cette hausse, ce pic ?
Alors il faut voir par rapport à quelle période de référence on se situe. C'est effectivement une hausse forte après deux années de baisse des actes. Et encore, on parlera de ces actes, c'est ceux que recensent, qui sont signalés à la police et à la gendarmerie.
Oui.
Il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Mais déjà, si on prend ce qui est visible là, oui, effectivement, il y a une hausse, mais on est en dessous du pic qui avait été atteint en 2014.
Mmh.
Et on est encore loin, hélas, de ce qui s'était passé après les débuts de la seconde intifada, en particulier en 2000, 2002, 2004. Donc si on resitue cette hausse des actes antisémites les plus violents, ceux qui sont signalés à la police, il y a un lien, et je ne parle pas de ce qui est arrivé à Samuel, ce qui est quelque chose que je mettrais dans la catégorie de l'antisémitisme ordinaire.
Oui.
Mais on constate qu'il y a des pics de violence qui suivent de très près les péripéties du conflit israélo-palestinien.
Mmh.
Si on se remet en arrière en l'an 2000, où explose la seconde intifada dans les territoires,
oui.
Avant, l'antisémitisme était devenu quasiment résiduel,
mmh.
à part quelques incidents. Et là, à partir de cet incident, il faut revoir les rapports de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2000, on arrive à plus de 700 actes violents. Il y a des incendies, des jets de cocktails Molotov, il y a des synagogues qui sont visées, il y a des jets de pierre, il y a une très très grande violence. Et puis ça retombe et ça va recommencer deux ans après. À chaque opération israélienne dans les territoires, opération Rempart, plan durci, bordure protectrice, et le pic de 2002, 2004, 2009, 2014 et celui de cette année correspondent à des incidents très largement médiatisés qui se passent dans les territoires, qui suscitent de l'émotion,
oui.
et de l'empathie auprès d'un certain nombre de jeunes qui sont ceux qui passent à ces actes de très grande violence, des petits délinquants.
Mmh. Mais lorsque
le de Samuel, c'est très différent.
Mmh. Mais lorsque le gouvernement a communiqué ce chiffre, il l'a comparé avec la nuit de cristal de 1938. C'est une image forte, vous en conviendrez.
Oui.
Pourquoi l'a-t-il fait, selon vous ? Quelle différence faites-vous entre antisémitisme et racisme ?
Ça, c'est deux questions en une. Effectivement, la nuit de cristal, on ne peut pas comparer. L'État français, là vous avez au moment de la nuit de cristal un antisémitisme d'État qui va se traduire par des morts, des centaines de morts, des arrestations, les déportations, toute l'histoire que l'on sait.
Oui.
La France aujourd'hui n'est pas dans la situation des années 30.
Mmh.
Il n'y a pas cet antisémitisme d'État. Il y a au contraire une action qui n'est pas toujours aussi efficace qu'on le souhaiterait. Mais vous parliez en début d'émission du plan de lutte contre toutes les formes de racisme et tout particulièrement une année on a fait de l'antisémitisme la grande cause nationale, l'État français se bat avec tous les moyens qu'il peut contre l'antisémitisme, et en particulier ce qui a été évoqué également, essayer de réfréner un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où l'on voit passer des insultes antisémites, ouais, et racistes, mais c'est abominables. C'est, donc on ne peut pas comparer ces deux périodes.
D'accord, je suis d'accord avec vous, donc, parce que je trouvais que cette image pouvait être à la rigueur négative et à contresens du but souhaité. Quelle différence donc entre antisémitisme et racisme ?
Alors, c'est compliqué. Chaque forme de racisme a son histoire et sa spécificité. D'une certaine manière, il y a des points communs entre l'antisémitisme au sens de racisme envers les juifs ou les personnes que l'on croit juives et le racisme anti-arabe, anti-musulman, anti-rom, anti-noir. Ça consiste à essentialiser un groupe. On ne voit plus quelqu'un en face de soi. Oui. On voit simplement qu'il est juif ou arabe ou noir. Donc, le mécanisme de départ est le même. On constate également que ces préjugés, si je me place au niveau des opinions, hein, pas des actes, parce que ça c'est encore un autre type de comportement, mais au niveau des opinions exprimées dans les sondages par exemple, on voit qu'il y a des points communs. On voit que les préjugés, quelle que soit la cible, sont plus fréquents chez les personnes qui ont fait moins d'études, chez les personnes qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui ne sont pas beaucoup sorties de chez elles. Chez les personnes aussi, globalement, qui se situent plus à droite de l'échelle gauche-droite, et surtout à l'extrême droite et du côté du Front National, là où il y a une vision un peu hiérarchique, inégalitaire de la société. Ceci posé, il y a des différences entre chaque forme de racisme, parce que chacun a son histoire. Et d'une certaine manière, l'antisémitisme, c'est peut-être de ses préjugés celui qui a la plus longue histoire. Si on se place dès les origines, prenons tout simplement l'Europe, hein, on ne va pas remonter à l'Égypte ou aux émeutes qui se sont passées dans les années 70 après Jésus-Christ. Si on s'en tient à l'Europe et à l'Occident, eh bien on voit des couches successives d'antisémitisme qui s'accumulent, qui ont sédimenté, qui donnent autant de prétextes à ressortir pour rejeter l'autre, le juif. Vous avez d'abord l'antisémitisme chrétien, où on fait des juifs le peuple déicide. Oui. Bon, tout cela a été rejeté fermement par l'Église catholique. Il y a eu le concile de Vatican II, mais ça a marqué des générations. Vous avez les notions de race qui vont être si prégnantes dans l'histoire du nazisme, en faisant de la race supérieure contre la race inférieure qu'était la race juive. Vous avez toutes les mythes autour du pouvoir des juifs. Je pense au protocole des sages de Sion, un faux créé par la police du tsar, mais qui parle d'un complot mondial et qui continue à se vendre aujourd'hui. Il y a du côté de la gauche l'assimilation facile des juifs à la haute banque, hein, les Rothschild, et qu'on voit surgir aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Donc, vous avez toutes ces couches qui s'ajoutent, et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la Shoah, vous avez la création de l'État d'Israël, qui va modifier aussi l'image des juifs. Jusque-là, on parlait des juifs apatrides. Là, on va dire, ah non, ils ont une patrie, donc ils ont deux patries, donc c'est la double allégeance. Et puis, il y a tout ce qui va se passer autour du conflit israélo-palestinien plus tardivement.
Parlons des réseaux sociaux, où ces discours de haine contre les juifs se déversent, où ils sont les plus virulents et les plus nombreux. Comment peut-on concrètement lutter contre?
C'est très difficile de lutter contre. Hein. Je veux dire, il y a des tas de... Bon, il faut essayer de responsabiliser les serveurs, les gestionnaires des réseaux sociaux. Il faut essayer systématiquement de porter plainte. Il y en a qui pensent qu'il faut faire cesser l'anonymat, hein, ce qui n'est pas aussi simple. Mais c'est extraordinairement difficile parce que ça laisse une très grande liberté, ça sert de défouloir. Et sur les réseaux sociaux, on parle avec les gens avec qui on est d'accord, donc ça favorise une espèce de surenchère dans l'horreur, et qu'on trouve pas seulement pour les juifs d'ailleurs, sur les noirs, sur les roms, sur les asiatiques. On entend des choses qu'on n'entend pas dans la vie courante, heureusement.
C'est la foire, vous avez raison, ces réseaux sociaux sont cette toile et l'occasion de déverser sa haine, quelle qu'elle soit. Vous restez en ligne avec nous, Nona Meyer. Dans quelques instants, nous accueillerons Stella. Elle a été victime d'actes antisémites aussi très violents. On pourra ensuite continuer à parler de l'antisémitisme qui provoque cette peur, cette terreur aujourd'hui, et qui font que certains juifs veulent quitter la France. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Nous parlons de l'antisémitisme cet après-midi. Vous y êtes confrontés. Venez nous raconter au 39-21. On vous lit également sur Twitter, hashtag Europe 1. L'antisémitisme qui subsiste en France, comment le combattre? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons Stella sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Stella, merci d'être avec nous cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous, Stella?
Je vais avoir 50 ans cette année, en juin.
D'accord. Alors, je vais résumer ce qui vous est arrivé en mars 2017. Vous avez vécu des agressions qui sont encore douloureuses pour vous à évoquer aujourd'hui. Tout a commencé par le cambriolage dont vous avez été victime. Que s'est-il passé exactement et à quelle époque exactement?
Alors, en fait, c'était en mars 2017. Nous étions mon mari et les enfants. Et nous avons subi un cambriolage pendant notre sommeil. On
n'a
rien entendu.
Pendant votre sommeil.
Pendant notre sommeil, oui, avec les enfants. C'était ce matin-là qu'il faisait très, très froid. On louait un petit pavillon à Romainville. Donc, ça faisait 8-9 ans. On était prioritaire éventuellement pour un futur achat. Donc, on se sentait bien, quoi. On n'a jamais eu vraiment le moindre souci.
Oui, vous n'aviez jamais senti la moindre attitude d'antisémitisme à Romainville?
Oui. Non, j'ai toujours habité le 93. Avant, j'habitais le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, dans les débuts de mon mariage. Donc, pas du tout. On adore les quartiers populaires. Tout est ouvert dimanche. On connaît très bien les commerçants aux alentours. Donc, et puis, il fallait savoir qu'il y avait un petit pavillon au fond de cour. Personne ne sait.
Ouais.
Parce qu'en fait, on rentre par une entrée d'immeuble et notre pavillon est au fond. Donc vraiment, il faut... Voilà.
Alors, que vous a-t-on volé cette nuit-là, pendant que vous dormiez?
Qu'est-ce que je peux vous dire? Des choses aux enfants. C'est pas tellement le vol en lui-même où on a été choqués.
Ouais.
C'est que... J'ai l'impression qu'on a été surveillé, dénoncé plutôt. Vous voyez, après le vol, on a mis ça sur le compte au début d'un cambriolage, comme ça peut arriver dans toutes les familles ou à tout le monde en fait. Et au fur et à mesure, si vous voulez, des choses, on va pas, je ne sais pas comment vous expliquer, parce qu'après il y a eu les tags, mais on n'est pas parano, même si il y avait la mezouza qui était par terre, mon sac dans l'allée jeté.
Il y a quand même quelque chose qui a éveillé d'abord votre attention, c'est que vos photos d'Israël avaient été arrachées, mises à terre.
Mises par terre. Et puis, vous savez, on a photo du rabbin, on aime bien tous la photo du rabbi qu'on a tous, je pense, dans toutes les familles juives.
Ouais.
Un petit truc qui rappelle une petite menorah en décoration. Mais c'était pas du tout la première chose
à ce moment-là, vous n'êtes pas dit d'un seul coup.
Ouais. Le frigo était ouvert, on s'est aperçu, ils ont eu le temps de manger. En fait, c'est plus, vous savez, avec le choc, je ne suis pas remontée dans les chambres. Et quand la police scientifique est arrivée, ils m'ont dit, madame, vous pouvez nous aider, vous pouvez remonter. Et là, ils m'ont dit, qui a ouvert la fenêtre dans la chambre de ma fille? Et en mars, franchement, on ne dort pas encore la fenêtre ouverte à Paris. Donc, et là, ils me disent, il y a aussi, et le lit de ma fille était juste en dessous la fenêtre.
Ouais.
Et là, j'ai dit, mon Dieu.
Ils sont rentrés par la fenêtre.
Aussi, par la porte aussi, parce qu'avec l'attestation de police et d'assurance, ils appellent ça lever, ou enfin, il y a des termes. Mais ce cambriolage, en tant que femme et en tant que maman, comme tout le monde, je pense, j'ai dit à mon mari, tu sais, je crois que David, j'ai peur quand même. Il dit, mais non, tu vas voir, on va mettre des caméras, on a pris un...
Non, un cambriolage, c'est vécu comme un véritable viol de son intimité. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, donc je sais que c'est un sentiment très compliqué de savoir qu'on a... Comme si on avait souillé votre intimité, c'est-à-dire on a marché, on est allé dans des endroits... et en ce qui vous concerne, on est allé plus loin, puisque racontez-moi ce qui vous fait penser que ce cambriolage avait un caractère antisémite.
Alors, donc voilà, il y a plein de choses sentimentales aussi qui ont été prises dans ce... Donc on est parti. On est parti au Vietnam. On a passé 10 jours, un voyage. On est parti quand même avec les larmes aussi, mais voilà. Bon. Et puis, on rentre au mois d'avril et début mai. Je descends, mais là, j'ai oublié, bien sûr, le cambriolage. J'ai oublié un petit peu. On a rechangé la porte. Nous étions en travaux aussi pendant pendant le, enfin, les entraves, on refaisait la salle de bain. Après, mm-hmm. vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que malheureusement, je paye les dommages collatéraux des choses que je paye encore et je ne suis plus dans cet appartement.
Ouais.
Et voilà. Et donc, on est parti. Et puis un matin, comme toutes les mamans, je me lève, j'amène ma fille à l'école et on passe par le parking. Donc, et là, je ne suis pas la seule voiture. Hein. Et là, je trouve ma voiture de loin. Vous savez, je suis un peu malvoyante, je suis porteuse de lentilles, donc ouais. de loin. Ma fille, elle me dit, maman, t'es sérieuse? T'as vu ce qu'il y a écrit sur la portière? J'étais là. Mais non, mais plus je m'approchais, en fait. J'ai eu le réflexe, en fait. J'ai pris mon blouson, j'ai effacé, et en croyant que c'était de la craie. Et là, quand je me suis aperçue que non, c'était bien plus profond que
la
ça.
La peinture,
en fait.
Donc. Qui avait-il décrit sur votre portière?
Juif sur toute ma portière conducteur. Mais pas en petit, hein, quand mm-hmm. je vous dis...
Enfin, c'est très choquant, hein, ce dont vous parlez là. C'est, on imagine que le matin, voilà, voir sa voiture taguée, marquée « juif », ce qui nous rappelle des relents qu'on n'a plus envie de vivre. Mais vous pensez à quoi, en fait, quand vous voyez ça?
Je disais à ma fille, c'est pas grave, on va appeler papa, il va amener la voiture au garage, ne t'inquiète pas, monte dans la voiture, monte. Et là, sur le périph', parce que je l'ai mis à l'école juive dans le 17e, donc on prend le périph' à Port-des-Lilas, on se dirige vers le 17e, et là, je me fais klaxonner, mais peut-être, sans mentir, 10, une quinzaine de fois, et moi, je baisse mon carreau, je dis oui, je sais ce que j'ai sur la portière. Et en fin de compte, non, les gens, ils sont super sympas. Les camionneurs et les voitures, ils me prévenaient, madame, vos pneus, mais moi. Et là, je trouve une pompe essence à la porte de Saint-Ouen.
Oui.
Je m'arrête, et je me mets à pleurer, vous savez, je tremblais hein, quand même. Hein. Et je me suis tenue, si vous voulez, toute la route, et je tremblais en conduisant. Et là, je dis au pompiste, excusez-moi, vous pouvez m'aider, on n'arrête pas de me dire les pneus. Et là, je comprends que c'est pas qu'avec une clé qu'on m'a rayé la voiture. J'avais mes deux pneus arrière lacérés. Faut pas, on fait pas ça avec une clé. Elle est récente, ma voiture, quand même.
On avait pas fait que ça sur votre voiture. On avait dévissé les boulons. On les avait même enlevés. Ce qui veut dire que cette agression antisémite, elle est très violente. Parce que elle est violente, parce que visuellement, voilà, vous trouvez votre voiture taguée, mais il y a une intention aussi de vous blesser, hein, même voire de provoquer un accident, et donc dont on ignore ce qu'aurait pu être la gravité de cet accident. Vous êtes allé voir la police à ce moment-là?
En fait, je reste pétrifiée à ce moment-là en disant, mon Dieu, mais si c'est peut-être que 10 minutes avant ou je serais tombée nez à nez avec eux. Je ne sais pas, je me dis, on a déjà survécu au cambriolage. Et là, mais deux fois, on aurait pu mourir, en fait. Voilà ce que je me dis, moi, les premiers instants dans ma tête, avant que je prévienne la police, Et il me dit, le pompiste, il me dit, vous avez vu, derrière, il y a écrit Israël. Hein. J'étais là, mais pourquoi tout ça? Pourquoi
Vous restez en ligne avec nous, Stella. Nous allons voir dans quelques instants à quel point cette agression a impacté votre vie.
Et il y a Chantal qui témoigne au 39-21. Chantal, 65 ans, une autre agression. Hein. Ma fille a été agressée et traitée de sale juive. C'est un extrait du témoignage de Chantal. Oui. Pour moi, c'est inadmissible. On n'a pas le droit de dire ça.
Europe 1.
Vous êtes confronté à l'antisémitisme. Pourquoi est-il en hausse en France? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Nous parlons de l'antisémitisme qui se banalise et s'ancre dans le quotidien en France avec des actes contre les juifs qui augmentent. Vous avez été victime d'antisémitisme. Comment avez-vous réagi? Olivier Delacroix vous écoute. Vous composez le 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Stella qui nous expliquait le cambriolage qu'elle avait subi à Romainville. Un cambriolage à caractère antisémite et puis ensuite le tagage de sa voiture. Stella, à partir de tous ces éléments-là, le cambriolage, ensuite le tagage de la voiture, les boulons enlevés de vos roues de voiture, est-ce que vous vous êtes dit que voilà, il y avait quelqu'un qui vous en voulait clairement? Est-ce que vous aviez une idée de qui cela pouvait être?
Rien du tout, non. À ce moment-là, je me mets à pleurer, j'appelle la police en leur expliquant, voilà, j'ai subi un cambriolage, voilà encore ce qui se passe sur ma voiture. Et là, vraiment, j'ai eu une écoute, franchement, d'un policier qui me prend dans ses bras et qui me dit, écoutez, moi, c'est pas la police qui vous parle, mais le père de famille, je vous en supplie, il faut partir. Il faut partir où vous avez été dénoncé. Et vous savez, j'arrivais à la période de cette grande dinguerie là. Je ne sais même pas si ce mot se dit, mais vous savez, après Madame Knoll, j'arrivais après Madame Halimi.
Oui, oui, oui.
Vous
des
savez,
agressions,
le couple
des
de
agressions,
personnes âgées là,
des agressions antisémites et un meurtre dans le 19e qui a fait grand bruit. Et justement, suite à tout ça, vous êtes dans cette période-là, vous décidez de quitter votre quartier. Vous quittez Romainville. Ça vous a fendu le cœur de quitter Romainville parce que vous étiez bien à Romainville.
Bien sûr. Vous savez, mon fils, le grand, j'ai eu l'honneur d'avoir avec Madame le maire de Romainville. Il était le plus jeune de France à avoir la ceinture du Viet Vodao. J'ai été reçue en grande pompe, un apéritif. J'habitais le Pré Saint-Gervais avant, donc ils ont appelé Monsieur Combe là du Pré Saint-Gervais avec le maire des Lilas parce qu'il donnait cours bénévolement le mercredi. C'est-à-dire que j'ai eu toutes ces honneurs. Et le jour où il m'arrive ça. À Romainville, je n'ai vu aucun élu, personne.
Stella, est-ce que vous pensez avoir été victime de ces agressions, donc de ce cambriolage et ensuite du tagage de votre voiture et puis les boulons qui sont enlevés des roues de votre voiture dans un seul but, c'est de vous faire partir de Romainville et que vous fuyez parce que vous avez peur et puis parce que c'est un acte antisémite que vous avez vécu.
Vous savez, j'ai pris le soir même quelques cartons. J'ai pris toutes les affaires des enfants, ce que je pouvais emporter. Dieu seul sait ce que j'ai laissé, si vous saviez, une vie entière. Parce que mon mari m'avait fait des placards coulissants, j'avais pas d'appart encore. Je suis partie 4 mois vivre chez mes parents. Tous les soirs, on faisait les agences immobilières. Là, maintenant, j'arrive à en parler en pleurant moins, bien sûr.
Bien sûr.
Mais j'ai fui, moi, en 2017, je peux dire, avec mon mari, on a fui pour antisémitisme. Oui. Mais je veux dire, est-ce que c'est dingue? Est-ce que c'est... Même moi, je me dis, mais Stella, mais t'es folle. J'ai dit, maman, maman me dit, mais tu viens tout de suite, tu le laisses, on s'en fout, c'est que du matériel.
Justement, Stella, outre l'aspect matériel des choses, comment vous vous sentez aujourd'hui, psychologiquement, vous, vos enfants, votre mari, par rapport à ce que vous avez vécu?
Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Que j'ai retrouvé un deuxième travail pour faire face aux dommages collatéraux, parce que financièrement, ou alors, ça nous arrive en mai, donc les tags, j'inscris ma fille dans une nouvelle école en juin, avec devant tous les parents, on fait la réunion et la dame me dit, la directrice de cette nouvelle école, elle me dit, madame, vous avez oublié de mettre votre adresse. Je dis, madame, j'ai pas d'adresse. Mmh. Et là, je me mets en larmes, je fonds en larmes. Je lui dis, mais si j'avais pas eu mes parents, j'aurais pu être SDF. Écoutez bien, ce mot a un grand sens. J'aurais pu, quoi, nous payer 2-3 nuits d'hôtel avec l'assurance, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Mais si j'avais pas eu mes parents, moi? Mais comment j'aurais trimballé? Vous savez comment je vivais, là, les derniers moments? Avec 2 sacs de papier dans mes mains. Et va dans les agences immobilières. Mmh. Et ils vous demandent un tas de papier. C'est-à-dire qu'on... Mais qu'est-ce qu'on a fait, bon sang?
Vous n'avez rien fait, Stella. Mais... Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît important, c'est que ça fait longtemps que vous mettez vos enfants dans des écoles juives. Pourquoi? Est-ce que vous les sentez plus protégés? J'aimerais savoir pourquoi vous mettez vos enfants dans ces écoles.
Vous savez, ça fait très longtemps, je m'excuse de le dire à votre antenne, mais nous, la communauté juive, ça fait très longtemps qu'on s'est aperçu déjà qu'il y avait quand même un malaise, c'est pas pour rien qu'on prenait nos enfants, qu'on les mettait dans les écoles juives. Moi, ma dernière, c'est une fille, alors vous imaginez encore plus pour, qu'est-ce qu'on va dire, la tranquillité, la sécurité, peut-être, hein, je sais pas.
Stella, je vous rappelle que si on fait cette émission cet après-midi, c'est parce qu'il y a encore de nombreux actes antisémites commis tous les jours, toutes les semaines, donc c'est une réalité dont on parle, vous et moi, aujourd'hui.
C'est ça, mais comment expliquer peut-être que à cette nouvelle génération qui, je sais pas, ça sert à rien d'être comme ça. Des fois, je me dis, c'est ce que nous, on a enfanté qui est monté mauvais alors, mais pourquoi ça? Mais pourquoi leur expliquer qu'on peut vivre ensemble? Pourquoi? J'en sais rien. J'ai passé mes meilleures vacances, je les ai passées en Tunisie. Mm-hmm. Mes parents sont de confession juive tunisienne. Ils nous ont transmis tellement de belles choses.
Alors On va finir sur une question qui me paraît importante par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que j'entends de vous. On sent que vos enfants, David, votre mari, vous vivez ici, vous êtes chez vous, vous aimez la France, vous avez envie de... vous viviez votre vie jusqu'à être victime de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question de rester ici en France ou de faire le fameux voyage que pas mal de...
Je vais vous expliquer les premiers jours qu'on suivit. On a eu, vous savez, les organismes qui nous ont dit « Vous voulez qu'on vous aide ? On va faire l'ALIA. » Je les regarde.
L'ALIA, oui, j'oubliais le mot. Ouais.
Voilà. Mm-hmm. J'ai dit « C'est ça que vous me proposez ? J'ai 23 ans d'ancienneté dans mm-hmm. mon travail. Mes enfants ont leur vie sportive, leur vie professionnelle ici. Mais je ne veux pas partir. » Ça, mm-hmm. je vous parle de ça il y a un an. Hein. Il y a un mm-hmm. an hein. mm-hmm. Et puis, au fur et à mesure de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on entend, je me dis, vous savez, c'est vrai que j'avais... Je ne pensais pas ça hein, il y a un an. Mm-hmm. Mais je me dis, vous savez, je crois bien, excusez-moi de vous le dire, Olivier, mais un jour ou l'autre, on finira par partir. Mm-hmm. Enfin, un jour ou l'autre. Alors que je n'avais pas du tout cette mentalité. Hein. Mm-hmm. Pas du tout, hein. Même moi, j'en voulais quand on me disait, mais fais l'ALIA, on va vous aider, c'est pas grave, là, si vous ne retrouvez pas un logement tout de suite. Hein. Mais non, je ne veux pas partir. Enfin, j'adore Israël, c'est mes vacances, c'est voilà, on a de la famille. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut partir aussi ? Mm-hmm. Mais pourquoi ça ? Et là, maintenant, vous voyez, là, 2019, eh ben, je me dis, je crois qu'un jour ou l'autre, on finira. Et ma grand-mère, la pauvre, vous savez ce qu'elle me disait quand elle a entendu mes faits divers ? Elle me disait, tu sais, ma fille, hein, eh ben, la guerre, ça a commencé comme ça. C'était ouais. quelques maisons et chacun disait « Mais non, c'est pas grave, c'est des mmh. actes isolés. »
Non, mais on comprend parfaitement que voilà, vos anciens, en plus, qui ont connu voilà, comment ça, tout ça a commencé, puissent avoir quelques inquiétudes par rapport à ça. Merci en tout cas beaucoup, Stella, pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bien évidemment, courage pour la suite. Et puis, j'embrasse au passage David, les enfants et puis toute la famille. Je me retourne vers vous, Nona Meyer. On a entendu à travers le témoignage de Stella un antisémitisme ordinaire. Mais on sent une vraie solitude dans ce que cette famille a traversé. Alors, après les attentats de l'école juive à Toulouse et celui de l'hypercachère, beaucoup de juifs se sont sentis seuls, ignorés, car il n'y a pas eu de réaction collective, de manifestation. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce que cela veut dire ?
Mais d'abord, je voudrais juste dire ce qui m'a semblé terrible dans ce témoignage bouleversant de Stella, c'est qu'elle a dit quelque part « j'ai été dénoncée ». Elle dit « mais qu'est-ce ouais, qu'on a fait ?» Comme si c'était une faute d'être juif. C'est absolument terrible d'entendre ça, d'en arriver là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne peut pas mettre tout à fait sur le même plan l'affaire Merah, l'hypercachère, cette affaire qui est une affaire quasi criminelle, parce qu'elle aurait très bien pu avoir un accident avec la voiture. Hein, c'est beaucoup plus que de l'antisémitisme ordinaire qu'il y a là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est compliqué parce que ces différents actes ne sont pas au même niveau. Il y a, d'une part, quand vous parlez de l'affaire Merah et de l'hypercachère, là, on est dans l'ordre du terrorisme, oui. au nom du djihad, au nom d'une idéologie mortifère qui cible l'Occident et les Juifs qui sont le symbole d'un Occident détesté. Donc là, c'est un cas particulier.
On est parfaitement d'accord avec ça, mais on peut voir de toute façon un lien, aussi infime soit-il, avec le fait d'aller marquer Israël, juif, sur une voiture, dévisser les boulons d'une de roue de voiture. On peut y voir un lien aussi infime soit-il. Bien évidemment, ces deux actes ne sont pas... Mais c'est du terrorisme, c'est du petit terrorisme, mais on peut y voir le début de quelque chose de grave.
Oui, c'est de la grande criminalité, de la criminalité crapuleuse, comme dit la police. Vous souvenez-vous de l'affaire Ilan Halimi ?
Oui, complètement.
Souvenez-vous de quelqu'un. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on a, vous parlez de terrorisme, mais on a le recyclage plutôt de vieux stéréotypes antisémites qui n'ont pas disparu. On parlait de leur sédimentation tout à l'heure. Et là, c'est l'idée, les Juifs, ils ont de l'argent. Les Juifs, ils ont du pouvoir. L'idée qu'il y a deux poids, deux mesures, un ressentiment qu'on voit monter, surtout dans les quartiers les plus défavorisés, de la part de jeunes délinquants qui projettent leur frustration en haine contre les Juifs, perçus comme, d'une manière caricaturale, comme une communauté qui est mieux lotie que nous, mmh. qui a de l'argent, qui a du pouvoir. Et ça, c'est ce recyclage de ces vieux thèmes du mythe du pouvoir et de l'argent des Juifs qui est absolument redoutable.
Et qui a,
la peine d'y faire intervenir le djihad ou le terrorisme islamiste. Mm-hmm. Il y a ça. Et le conflit israélo-palestinien, pour sa part, il n'est pas une cause. C'est un déclencheur. c'est un détonateur. Chaque fois qu'il se passe quelque chose au Proche-Orient et qui est largement répercuté dans les médias, à ce moment-là, ça suscite de la haine, ça donne une cause qui donne une certaine noblesse à des actes au demeurant qui sont tout simplement de la délinquance et de la criminalité.
Mmh.
Donc, on se dit solidaire des Palestiniens, comme si ça excusait de s'en prendre à une famille,
oui,
parce qu'on sait qu'elle est juive, et d'essayer de percer les pneus de la voiture et de mettre des graffitis partout.
Mmh.
Donc ça, c'est le deuxième type d'affaire et qui est redoutable parce que ça entretient la peur au jour le jour. Tous les sondages, toutes les études nous montrent que les juifs de France, les Français juifs, sont de toutes les communautés juives en Europe ceux qui ont le plus peur aujourd'hui.
Mmh.
Parce que leur quotidien est pourri par ce genre d'action, même si c'est une minorité. Si vous prenez l'ensemble des actes qui vont être répertoriés cette année par la police, ça doit tourner aux alentours, si c'est 69% de plus, de 526 actes. Sur ces 526 actes répertoriés, les trois quarts sont des menaces, c'est-à-dire il n'y a pas d'agression physique ni d'agression contre les biens, mais il suffit de quelques-uns pour pourrir la vie au jour le jour et faire que certaines familles, à leur grand regret, à leur corps défendant, ont décidé de repartir en Israël.
Nona Meyer, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Elsa. Elle a été victime donc d'antisémitisme ordinaire, mais veut porter un vrai message d'espoir.
Europe 1. Des préjugés, une parole, un acte, parfois très violent. Vous avez été victime d'antisémitisme, vous témoignez au 39-21. Pourquoi l'antisémitisme est en hausse en France? Vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous sommes avec Elsa. Bonjour Elsa, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Elsa?
Alors j'ai 21 ans et je suis de Paris.
D'accord. Alors Elsa, vous êtes de confession juive. Jeune fille, vous avez été victime d'antisémitisme ordinaire au collège notamment. On parlait tout à l'heure, et puis alors cette année, comme Samuel, vous avez, qu'on a eu en début d'émission, hein, vous avez fait partie du projet SOS Racisme intitulé Salam, Shalom, Salut. Quel message d'espoir et surtout comment est-ce qu'on peut lutter contre cet antisémitisme ordinaire dont vous parlez, dont vous avez été victime et dont de nombreux jeunes sont victimes encore aujourd'hui?
En allant en parler, en allant à la rencontre souvent des plus jeunes, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait en ce moment avec ce projet, avec SOS Racisme. Et quand on va à la rencontre des jeunes, dans les écoles, dans les centres sociaux, partout où on peut rencontrer les plus jeunes, que ce soit des collégiens ou des lycéens ou des jeunes adultes, c'est en parlant souvent qu'on arrive à débloquer certaines choses et à faire évoluer les mentalités, les croyances, mmh, au moins à faire douter,
mmh,
déjà à apporter un doute.
On entendait Nona Meyer parler de tout ce qui générait cette haine et donc ces actes antisémites, mais elle parlait aussi de clichés. Ces clichés, ces fake news, ont un certain succès chez les jeunes. Comment les déconstruire aujourd'hui?
Bah déjà, en les écoutant avec bienveillance, c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce projet, c'est d'aller parler au début en disant « nous, on est prêts à tout entendre, il n'y a pas de tabou, allez-y, dites-nous ce que vous entendez dans vos familles, dans vos cercles d'amis, de proches.
Oui. »
Et après, en essayant d'expliquer en réalité ce qui se passe vraiment. Et on a eu plein de témoignages comme ça, et j'ai plein d'anecdotes en tête où à la fin on arrive à faire douter et à déconstruire les clichés qui sont nombreux parce qu'ils se répandent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur certains médias même parfois. Voilà.
J'ai l'impression que cette génération que vous avez rencontrée, hein, celle des plus jeunes, elle est plus tolérante aujourd'hui et tendance à mettre de l'espoir dans cette jeune génération plus tolérante. Est-ce que vous avez eu ce même ressenti lors de votre tournée Salam, Shalom, Salut?
Je ne sais pas si elle est plus tolérante, mais en tout cas, elle a le désir d'échanger. Et souvent, quand on a été dans certains lycées, certains collèges, à la fin, ce qui en ressort, c'est « merci d'être venu », parce qu'on ne vient jamais nous parler de ces questions. On a des formations sur tout un tas de sujets, mais sur les questions d'antisémitisme notamment, même si on parle aussi de racisme,
ouais,
sur les questions d'antisémitisme, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, bah ils nous disent, voilà, on ne vient jamais nous parler d'antisémitisme, et même parfois, ils ne savent même pas ce que ça veut dire.
Mm-hmm.
Ils ne savent même pas qu'il y a un mot qui est consacré à la haine des Juifs, et même parfois, ils ont du mal à l'employer, ils ne comprennent pas pourquoi ce mot existe en particulier. Pourquoi
D'accord.
on utilise un mot dédié à ça.
Merci beaucoup Elsa pour votre témoignage aujourd'hui et bravo pour ce projet Salam Shalom Salut.
Merci.
Cette rencontre voilà avec les lycéens et ce message que vous délivrez et que vous continuerez à délivrer. Merci aussi à Samuel, à Stella de nous avoir fait partager leur histoire. Merci à Nona Meyer pour ses éclairages. C'est la fin de cette émission. L'antisémitisme est un combat de longue haleine. Le plan de lutte du gouvernement s'articule autour de quatre axes. Lutter contre la haine sur Internet, éduquer contre l'antisémitisme, protéger les citoyens et accompagner les victimes, investir de nouveaux champs de mobilisation comme le sport. Il ne faut jamais banaliser l'antisémitisme et toujours s'en indigner. N'hésitez pas à vous tourner vers le CRIF ou vers la LICRA. Si vous êtes victime d'antisémitisme, vous serez toujours écouté, reçu et guidé.
Et vous continuez d'échanger sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram également, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons de la meilleure manière de vieillir. Comment vieillir ? C'est le sujet de demain que nous abordons ensemble. Comment avancer dans l'âge sereinement si vous vivez une seconde jeunesse depuis votre retraite, si pour vous votre vrai âge est celui que vous avez dans votre tête, si les années qui passent vous effraient, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire.